Au programme dans cette release, une balle, des briques, trois murs infranchissables et un score à péter la tronche. Cette semaine, le programme vous est présenté par Daskritch en super player, tout seul. Et j'espère que tout le monde a mis son portable sur silencieux, parce que sinon ça va me déconcentrer, ça va m'énerver. Zou. Allez, c'est parti. Bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui es une vraie graine de casseur. Il fut une époque où il existait des commerces dont la surface était exclusivement dédiée aux jeux. On pouvait jouer au baby-foot, au flipper et surtout à une multitude de jeux vidéo montés dans des boîtiers spécialisés appelés bornes d'arcade. On disait que dans ces lieux de débauche, tu ne rentrais qu'avec une batte ou une hache, mais à mon avis, confondait avec une partie de Castlevania ou bien une chanson d'Ayam. Tu mettais une pièce dans la fente et la partie durait entre une minute et une heure en fonction de ton talent. En général, le gestionnaire de la salle d'arcade avait intérêt à ce que tu perdes assez vite, mais pas trop, d'où l'habitude à une difficulté impressionnante sur ces jeux. Bon, des fois, le gérant en rajoutait un peu, des taquets en bois sous les pieds arrière des flippers, la surface des baby-foot savamment rabotée, et les switches paramétrant la difficulté des jeux vidéo étaient soigneusement calés avec des allumettes au cas où l'interrupteur glisse ou la violence est partie. Aujourd'hui, je vais te parler d'un des genres de l'arcade action qui furent immensément populaires, aussi bien en borne d'arcade que sur un ordinateur familial, mais qui de nos jours a quasiment perdu toute notoriété. Et en même temps, un type de jeu dont les périphériques d'entrée ont énormément conditionné la jouabilité du genre. Car son tout premier périphérique de contrôle fut le paddle, ce bon vieux bouton rotatif qui donnait à la fois une précision dans le placement et les limites sur la vivacité. Puis vinrent le joystick ou le clavier au déplacement binaire, sec et parfois trop lent. Et on le verra sur une évolution, un usage assez étonnant de la souris. Avec les mêmes règles de base, tu peux déjà explorer très différemment ce classique en fonction de son périphérique d'entrée. Enfant du futur immédiat, tu dois en avoir marre de m'entendre tourner autour du pot. Et oui, je ne t'ai toujours pas dit de quel jeu je vais te causer. Le casse-brique. Ce jeu qui consiste à détruire des murs de briques avec une balle en n'ayant le contrôle que sur donc la batte ou la raquette. Et évidemment, la difficulté croît avec l'avancement de ton œuvre, car il devient alors statistiquement moins évident d'arriver à toucher alors qu'il ne reste que cette ultime brique, celle qui est nichée là-bas tout au fond, pas loin du coin. Et rien n'est plus trippant que l'instant multiballe.
Ce bonus où la balle se dédouble encore, promettant un carnage démultiplié sur les briques, mais en même temps deux fois plus d'attention et de nervosité pour faire rebondir avec ta batte. Et à force de tenter de suivre toutes ces balles, tu pourrais bien perdre la boule et n'en garder aucune. Et une vie de perdue. Et si d'aventure tu finis de vider une pièce de brique que tu pouvais casser, le jeu t'envoyait alors dans une autre pièce, un nouveau défi, avec des briques aux propriétés plus compliquées et accessibles qu'aux trajectoires les plus retorses. De quoi te faire péter un plomb. Il se trouve qu'en 2019, j'avais écrit une suite de textes sur les casse-briques, où notamment je me suis posé la question pourquoi le casse-brique fut-il immensément populaire, puis est tombé en désuétude après 1989. Est-ce à cause de la chute du mur de Berlin ? Je ne crois pas aux coïncidences. Mais de nos jours, le chef de l'État la plus importante puissance militaire parle de faire construire un mur le long de ses frontières sud. C'est marrant, mais je sens que les casse-briques vont revenir à la mode avec une bande-son de hip-hop mexicain. Enfant du futur immédiat, il est temps de reprendre en radio ce dossier parce que, tel que je te connais, comme tu n'es pas du genre à cliquer sur les liens qu'on te met sur le site cpu.pm, j'ai l'impression que le son est le seul moyen de t'intéresser à quelque chose. Et pourtant, notre programme, ben, il casse pas vraiment des briques. The Who, Pinball Wizard, et c'est une chanson écrite pour l'opéra rock de 1969, Tommy, où le joueur est aveugle.
since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine. Feeling all the bumpers, always plays clean. Plays by intuition, the digit counts as ball. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. He's a pinball wizard, there has to be a twist. A pinball wizard's got such a sufferer. Seen him fall, that deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. I thought I was the party table king, and I just handed my pinball crown to him. Seen him fall, that deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball.
Vous écoutez Radio Éphémère et vous êtes donc dans l'émission Carré Petit Utile.
CPU Carré Petit Utile.
Où nous allons parler des casse-briques. Atari, l'entreprise qui a créé le célèbre jeu Pong, le premier jeu vidéo de bar, vient d'être vendu au groupe Warner pour un montant record en 1976, 30 millions de dollars. Mais Nolan Bushnell, son géniteur, cherche à rester innovant dans ce marché qui explose depuis 5 ans. Il va sortir la première console de jeu évolutive via les cartouches, la Atari Video Computer System, renommé plus tard Atari VCS 2600. Mais dans l'immédiat, il veut transformer son coup d'essai dans les salles d'arcade et s'imposer à côté des flippers avec un jeu vidéo simple, compréhensible par tous et donnant un sentiment d'excitation à tenter de le maîtriser. On imagine ce qui a dû passer dans l'esprit de Nolan Bushnell. Un espèce de jeu Pong avec un seul joueur qui aurait un défaut. La balle efface un bout du mur en rebondissant comme les rangs de cibles en triplette dans les flippers. Ainsi naquit Breakout, le premier casse-brique. Si une maquette du jeu est rapidement construite, elle se monte assez gourmande en processeur et autres circuits imprimés. Elle est donc relativement chère, mais surtout compliquée à maintenir. Bushnell demande à l'un de ses nouveaux employés de lui produire une carte avec le moins de processeurs possible, prime à la clé. Gros défi pour le jeune Steve Jobs, mais un de ses amis a justement un incroyable sens du design matériel simplifié au possible. Steve Wozniak, un camarade de petite délinquance du week-end, maniant ensemble le fer à souder pour fabriquer des Blue Box, un montage parasitant le système de facturation des appels téléphoniques longue distance. À l'époque, bon sang diurnement chez Hewlett Packard, Wozniak sèche et va en 4 jours monter son savoir-faire génial. La technologie utilisée sera non pas à base de microprocesseurs, mais de logique discrète. Il aura même l'astuce de mettre de la couleur à l'écran avec de simples caches en plastique colorées. La technologie utilisée dans cette carte de test fut beaucoup trop difficile à industrialiser par Atari, qui fut contraint de faire la première émulation connue comme board arcade. Il fallait en effet reproduire sur microprocesseur non pas un programme, mais émuler la logique d'un câblage électronique. Jobs partagea les $750 promis par son patron avec Wozniak, soit $10 par circuit économisé, mais pas les $7,500 de primes. Woz a pris l'embrouille largement plus tard alors qu'il avait déjà beaucoup de reproches à faire à son associé Jobs. Ce fut la goutte d'eau qui fit partir Woz de leur boîte Apple, mais ça c'est une toute autre histoire. Le jeu avait une difficulté progressive avec différentes phases d'accélération de la balle et la réduction de la batte vers la fin du tableau. Mais il ne comprenait que deux niveaux. Et après, eh ben écran vide. À l'époque, les kill screens n'étaient pas rares, le moment où la bande d'arcade plante car rien n'était prévu à ce niveau de difficulté. Atteindre un kill screen était la juste récompense du bon joueur, la ligne d'arrivée. Atari fit son beurre de la licence, le jeu fut porté sur toutes les consoles et ordinateurs familiaux de l'époque, vraiment le must-have. Son portage sur Apple II eut droit à plus de niveaux, popularisa les manettes potentiométriques, permit d'introduire les fonctionnalités sonores de l'ordinateur, et fut rédigé par Steve Wozniak. Encore The Woz. À ma connaissance, il semble qu'Atari n'a jamais demandé de droit à Apple, par respect pour son génie. Good game, Woz. Aphex Twin, Bucephalus Bouncing Ball, extrait de son album Come to Daddy, sorti en 1997. plus que Breakout, c'est Arkanoid qui est considéré comme le véritable casse-brique. Ce jeu qui a amené les canons du genre. Son arrivée en 1986 balaya instantanément tous les clones de Breakout qui pullulaient. Les bornes Taito restèrent plus longtemps dans les salles d'arcade que celles d'Atari. Le jeu conçu par Akira Fujita a été développé avec une vraie équipe de métiers spécialisés et surtout une expérience multimédia complète, allant jusqu'à l'improbable pour le genre. Le jeu a une histoire contée dans l'introduction. Avouez qu'on n'avait pas besoin d'un prétexte pour détruire sauvagement un mur à coups de raquette, mais savoir que l'arcanoïde du titre est un vaisseau détruit par Do et que le joueur contrôle une capsule de sauvetage, le Vaus, avec lequel il va mener sa vendetta, et ben ça en jouette. Et zou, je vais mettre 2 francs dans la fente. Avec Arkanoid, le casse-brique a gagné en vraie couleur et en bonus. Certaines briques, en se cassant, libèrent des espèces de cartouches permettant de ralentir provisoirement la balle, de mettre un mur de sécurité en bas de l'écran, mais aussi des malus vicieux comme l'inverseur de mouvement du paddle ou l'accélérateur de balle. La difficulté progressive est complétée par des monstres adverses apparaissant dans le tableau et interférant avec la trajectoire de la balle. Celle-ci pouvait se dédoubler et certaines briques ne cassent qu'après plusieurs chocs. 33 niveaux, tous différents, la difficulté progressive. Les joueurs sont fortement réceptifs au message « Insert coins to continue » avec la célébrissime police « Designed by Taito ». Il fera la fortune des propriétaires de salles d'arcade. Les sociétés comme Discovery Software, Altus et Imagine prirent la licence auprès de Taito pour le portage sur leur ordinateur et console de jeu. Ainsi, des machines modestes comme l'Apple II, l'Amstrad CPC, les compatibles PC avec leur écran CGA 4 couleurs, ou les ordinateurs avec de bien réelles capacités multimédia comme l'Amiga et l'Atari ST. Leur version s'accommodait aussi bien du clavier ou d'un joystick binaire que d'un joystick analogique et de la souris. Certaines versions avaient même un petit raffinement. La possibilité pour les joueurs de créer leur propre tableau, d'y jouer et même de les sauvegarder, donc éventuellement de les partager avec des amis. L'éditeur est même étonnant de simplicité pour l'époque. C'est la particularité par rapport à l'original en arcade, des bornes séquelles et des versions console, toutes produites officiellement par Taito. Sa communauté est encore très vivace, comme le site arkanoid.com. We'll be right back. fond de K2, Break Me, en version féminine, extrait de l'album Angels vs Animals. Vous écoutez Radio Éphémère, CCPU. En 1987, Man of Schneider sort un jeu prévu pour l'Atari ST, équipé d'un écran monochrome. Configuration bureautique plutôt rare, mais il fit événement pour d'autres raisons. Le jeu Bolo s'introduisit avec une pompeuse musique de Richard Strauss, un « Ainsi par les Zarathustra », immondément numérisé même pour un Atari ST. Mais Bolo marquera ceux qui s'y sont frottés comme un casse-brique étonnant, qui introduisit de façon réaliste des notions de gravité, allant de la pesanteur au trou noir, de l'apesanteur à gravité nulle, hein, au trou noir, l'élasticité et l'électromagnétisme. Oui, plutôt que reproduire de bêtes chocs avec des amortis nuls, nous avions plusieurs lois de physique qui sont rendues d'une manière plutôt convaincante et maligne. La batte de jeu était libre de se déplacer dans tout l'écran, sortant de l'axe horizontal, exploitant à fond la souris. Mais les murs de rebond ne sont pas forcément présents sur les bords traditionnels. La balle risquait donc de sortir par n'importe quel côté. En frottant la batte contre des briques, le joueur pouvait magnétiser certaines parties du terrain pour modifier la trajectoire des balles, voire contrer la gravité. Ça faisait de superbes ellipses. Les briques explosent littéralement en dispersant des débris mortels pour la batte, et les balles pouvaient se détripler jusqu'à 27 simultanément présentes à l'écran. Un très joli exploit pour un ordinateur sans blitter, c'est-à-dire sans circuit graphique spécialisé, et dans un mode monochrome. Mais celui-ci, malgré ses deux couleurs, permettait d'obtenir des graphismes très finis par sa haute résolution, 640 par 400 pixels, et des trames très belles grâce à un moniteur de qualité. Particularité, il fut l'un des premiers jeux d'arcade réflexion à ne pas avoir été écrit en langage assembleur, mais en module à 2. La vitesse processeur sidérant de 8 MHz permettait d'utiliser des langages compilés. Et je parie que si on regarde le code source, une bonne partie est écrite en bon vieil assembleur Motorola 68000. Le jeu absolument incroyable restera très confidentiel. Édité par Application System Heidelberg Software GmbH, un petit label indépendant allemand, Bolo demandait une configuration plus proche de la bureautique que du familial. Les moniteurs monochromes pour ST étaient incompatibles avec les modes couleurs pour téléviseurs, et jouer sur une télé faisait beaucoup trop perdre en finesse de jeu. C'était plutôt osé d'utiliser un mode graphique noir et blanc sur une machine où on vantait ses 512 nuances de couleurs. Il n'avait pas vraiment la chance de s'imposer. Mais ceux qui y jouèrent en gardèrent un souvenir d'un jeu assez difficile, mais très inventif, demandant beaucoup d'astuces pour résoudre la centaine de tableaux. Pour les curieux, s'ils pensent pouvoir le faire fonctionner normalement, le jeu a été adopté par son auteur sur Macintosh et PC MS-DOS en 1994. Il existe un projet de reconstruire un clone de ce jeu fabuleux, Rembolo, mais nous n'avons aucune nouvelle depuis 2015. Peut-être qu'il est temps que quelqu'un relance ce jeu mythique. Vous écoutez CPU, l'émission Carré Petit Utile, et on retrace la saga des casse-briques pour la génération casseur. Simultanément à Bolo, l'éditeur Titus sortit en 1989 un casse-brique aussi innovant et surprenant imaginé par Paul Pamart. Là aussi un casse-brique faisant fi de la notion d'horizontalité. Le joueur peut déplacer son espèce de batte carrée dans toutes les directions. Mais cette espèce de viseur reste fixée au centre de l'écran. Le plateau de jeu est incroyablement grand et demande une sacrée réflexion pour y jouer. Une partie réduite est affichée à l'écran et le point de vue se déplace par scrolling selon les mouvements des battes de joueurs. Évidemment, la balle sort de l'écran et va se perdre dans les immenses tableaux, loin hors du regard. Il est même considéré d'une jouabilité très difficile, certaines briques et les monstres se déplaçant dans les tableaux n'étaient pas forcément affectés par la balle, mais pouvaient être létaux pour la batte. C'est aussi l'unique casse-brique de sa génération jouable qu'avec des périphériques binaires, joystick ou clavier par opposition au potard, paddle, souris et autres trackball considérés comme analogiques. Le jeu est techniquement très abouti sur Amiga, Atari ST et le portage NES tente d'arriver au même niveau. Mais l'éditeur montre le savoir-faire sur Amstrad CPC. Les développeurs français, malgré les limites de ce micro 8 bits, arrivent à reprogrammer le matériel graphique pour obtenir un défilement multidirectionnel absolument fluide dans des tableaux gigantesques. Un exploit de développement assembleur. The Limp Twins, If It Ain't Broke, Break It. Chouette programme. Bananoid est un freeware pour PC sorti en 1989. Il utilise les possibilités des cartes vidéo VGA, alors à peine balbutiantes, encore très coûteuses et surtout incompatibles entre elles. Un PC compatible. Là, à l'époque, le PC était surtout prévu pour la bureautique avec un haut-parleur capable d'émettre un simple bip, équipé d'une carte vidéo CGA, au mieux 640x200 en deux couleurs, et d'un clavier. La souris est un luxe dans l'environnement très convivial du MS-DOS. Et pour être franc, les groupes de Demo Maker offraient alors des productions et des jeux bien mieux terminés sur Amiga et Atari ST, alors que le PC ne connaît que de rares équipes qui souffrent à sortir des productions vu la manque de cohérence dans cet écosystème. Résultat, Bananoid a des couleurs flashy, des formes mal définies, fait souvent saigner des yeux et les oreilles se croient revenus 7 ans en arrière. Bananoid utilise le mode vidéo MCGA, usuellement 320x200, 256 couleurs, ici bricolé pour afficher du 360x240, avec une astuce de registre qui permet le scroll matériel par offset. Une technique jusqu'ici connue que sur les ordinateurs familiaux comme l'Atari ST et l'Amiga, avec les avantages du mode chunky, c'est-à-dire qu'un pixel est codé sur un octet, par rapport au planar où un pixel est un bit d'octet sur plusieurs plans de couleurs, ce qui est beaucoup plus compliqué à faire décaler horizontalement si on n'a pas des circuits vidéo spécialisés. La taille horizontale de la zone de jeu est de 544 pixels, excusez-moi, et elle est plus grande d'environ une fois et demie ce qui est représenté à l'écran, 360 pixels. La section d'écran affichée suit les mouvements de la batte au joueur de ne jamais perdre de vue trop longtemps la balle. Mais difficile, dans un jeu conçu comme démonstration par un développeur, dans un graphisme très peu agréable. À part ce mouvement d'image, le jeu n'a strictement aucune originalité, ni aucune beauté d'ailleurs, mais il démontre qu'on pouvait développer des jeux colorés avec des effets dignes de chipsets spécialisés des ordinateurs 1632 familiaux, sur des machines qui valaient... un IBM PC, c'était largement plus cher, quoi. Dès ce moment, le portage de jeux 1632 commençait enfin à être comparable sur la plateforme PC compatible, sous réserve de posséder une configuration au prix rédhibitoire, d'avoir la carte vidéo et la carte son exactement identiques aux développeurs et de ne pas s'être énervé à coups de pied sur des drivers absolument anarchiques et incompatibles. À tel point que ce casse-brique est encore intentionnellement conçu pour être jouable au clavier, puisque la souris n'est toujours pas obligatoire sur plateforme PC, ni même d'une gestion unifiée. C'est un peu comme si aujourd'hui on devait faire un jeu pour plein de téléphones portables, genre Samsung, Nokia, BlackBerry, et qui ont chacun des touches différentes, une résolution différente, etc. Alors qu'à côté, on a deux, trois écosystèmes avec des caractéristiques unifiées et un parc important de machines. Et là, on parle de l'iPhone, de la Nintendo DS et de la PSP. Bon, maintenant, vous devriez mieux comprendre pourquoi il y a tellement moins de jeux en dehors de cet écosystème. Et l'inconvénient, c'est que quand cet écosystème commence à s'essouffler de par sa fermeture, et pas que le manque d'évolution matérielle. Nintendo avait souffert à son époque de son emprise sur les éditeurs. Que la concurrence commence à s'unifier, que les outils d'abstraction de code commencent à poindre sur PC. L'évolution donc des compatibles PC, la popularisation de la carte vidéo VGA, toujours en mode MCGA, et de la carte son Sound Blaster et de sa prise joystick associée, font que les équipes mythiques, telles que les Bitmap Brothers et les Team 17, s'intéresseront au mode MS-DOS et à appliquer leur vaudou des machines chunky and clunky en voie de standardisation. En 1995, l'arrivée de Microsoft Windows, mais surtout de DirectX, donne enfin les bases d'abstraction matérielle dont avaient besoin les studios de jeux. Conformément à la loi de Moore, la puissance en cette croissante des processeurs Intel sonnera le glas de la programmation en assembleur, qui avait permis cet exploit technique, et la mort par faillite de l'Atari et de Commodore, l'éditeur de l'Amiga, fera le reste. Should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the weather's on the street, let the fire in your heart is out.
sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how.
Oasis versus Young Pucks. c'est un mashup de 2010 par Fego, disponible sur la compilation Machette Poped Punk. Nous sommes en 2002. Les casse-briques ne sont plus qu'un fragment d'une histoire héroïque, passée de mode aussi bien dans les bornes d'arcade que sur les ordinateurs personnels. Pendant ce temps-là, Internet est devenu accessible à tous, et son interface la plus populaire est le web. Mais le web est encore conçu comme un service de consultation de documents statiques. À part un système de formulaires, les principales interfaces dynamiques sont conçues avec des plugins propriétaires, comme Flash. Qui plus est, le développement technologique du web entre dans un marasme, celui de la victoire incontestable de Microsoft sur les autres navigateurs. En ayant imposé Internet Explorer comme navigateur par défaut sur tous les ordinateurs Windows, le développement technique du web va subir un coup de frein qui durera une dizaine d'années. Sur les cendres de Netscape, le navigateur open source Mozilla va se concentrer plus sur les implémentations des standards du W3C plutôt que sur des technologies propriétaires. Les navigateurs Opera et Conqueror, Conqueror qui sera d'ailleurs la base plus tard de Safari, suivent aussi la même voie, celle des standards. Or, il y a un ensemble de technologies qui commencent à être standardisées, c'est-à-dire théoriquement communes entre les navigateurs. Le DHTML, Dynamic HTML, la possibilité de modifier des éléments de la page via le langage JavaScript. En 2002, il en existe quelques démos de ce que chaque navigateur a implémenté de plus par rapport aux autres, mais cette fragmentation n'a pas vraiment aidé à des mises en application pratiques. Dans tous les cas, concevoir une interface dynamique, voire aussi exigeante qu'un jeu d'arcade, passe forcément par Flash. Et pourtant, Scott Schiller est une célébrité dans le domaine de l'interface web. Plus qu'un showcase ou une démonstration de son savoir-faire, DHTML Arkanoid est une véritable claque, démontrant ce qu'il devenait imaginable de faire pour des navigateurs modernes et relativement décents. Étonnant, on y retrouve les bonus, les hitscores, l'éditeur de niveau et la rapidité. Et le jeu est encore utilisable de nos jours, à condition qu'on accepte le plugin Flash qui ne sert que pour récupérer les données du serveur, faute d'Ajax. Le son, lui, a été géré par QuickTime Windows Media. Il n'est donc plus fonctionnel, d'où l'absence d'ailleurs de fond sonore de ce jeu dans cette chronique. Mais n'empêche, il fonctionne encore, prouvant combien le respect des standards est important pour la pérennité. Encore à l'heure actuelle, de très nombreux webmasters peuvent retourner à leurs chères études devant une démonstration aussi ludique. Le jeu vidéo est passé d'une programmation faisant un usage parcimonieux de l'assembleur et à des coprocesseurs spécialisés à la gestion de structures d'éléments abstraits en langage interprété multi-plateforme. On est très loin des frameworks orientés jeux, comme la MOS Basic dans les années 90 ou Unity de nos jours. Mais cette démo préfigure ce que va devenir le JavaScript et les objets DOM avec Confabulator, le projet Tamarine, le CSS3, les compilateurs Just-in-Time et le standard ECMA5. Avec Arkanoid DHTML, Scott Schiller va démontrer à des webmasters qu'il était possible d'aller plus loin avec les navigateurs web, dépasser le statut de simples terminaux de consultation de documents statiques et se lancer dans des interactions aussi exigeantes qu'un jeu vidéo. 4 ans plus tard, en 2006, Google Mail va en révéler la puissance avec Ajax. Le véritable système d'exploitation va devenir le navigateur web, comme cela fut prédit par Mark Anderson, le créateur de Netscape. Vous écoutez CPU, l'émission Carré Petit Utile, et on vous retrace l'histoire du casse-brique. 15 ans après DHTML Arkanoid, l'écosystème des navigateurs web s'est fortement amélioré et standardisé, ajoutant le WebGL, la gestion des inclinomètres et même de la réalité virtuelle. Il ne manque que quelqu'un pour recréer un casse-brique bluffant. David Rousset est évangéliste logiciel HTML5 chez Microsoft, mais il est surtout un papa militant car son fils Nathan a un handicap. Tout ça, il le raconte très pudiquement sur son blog facecachédu-handicap.com. Du coup, en plus d'être un showman des dernières technologies du web, capable de développer tout en parlant, il est très impliqué aussi dans les technologies d'accessibilité. Au point de concevoir Breakout for All, le premier casse-brique accessible aux aveugles, et uniquement avec des technologies web. Stéphane Deschamps en avait d'ailleurs parlé à ce même micro.
Il y a David Rousset de Microsoft qui a fait un casse-brique pour Paris Web. C'était un, ouais. c'était un pari. Et en plus, il savait pas l'ensemble c'était... des technos sur Microsoft. Il a fait sur Firefox.
Non, mais
pour
oui, oui. Et c'était très Microsoft émouvant parce que David, en fait, cherchait, il me disait comment est-ce que je peux faire un jeu d'arcade accessible. On se croise avec David et moi, je jette en l'air en disant, tu sais, un casse-brique, ça doit pas être très compliqué conceptuellement d'expliquer ça à un aveugle. Et genre, je le revois 6 mois plus tard, il l'avait codé. Et il y avait donc David Rousset, il y avait Sylvie Duchâteau qui est une évangéliste aveugle. Mmh. Et David me dit, c'est belle, j'ai jamais testé avec un aveugle. Je dis, bah, il y a Sylvie pas loin, croise-la. Il la croise et pour sa conférence du soir, il avait déjà corrigé des trucs pour qu'elle puisse jouer. Donc, ce qui fait que le jour où il a fait sa conférence, il a codé en live et elle a joué au casse-brique pour la première fois de sa vie. C'est génial.
Et puis David, en plus, est monstrueux en code. Bah oui, voilà. Le faire en live, il est très, très fort.
Et donc, ça veut dire qu'il a fallu lui expliquer ce qu'était un casse-brique et pour la première fois de sa vie, elle a joué un jeu d'arcade. Moi, je trouve ça absolument miraculeux, quoi. C'est génial.
Peut-on imaginer faire jouer un aveugle à un jeu d'action d'arcade où le coup d'œil, la compréhension de l'ensemble de l'écran et l'analyse des mouvements est primordial? Voici David Rousset démontrant son casse-brique accessible aux aveugles sur la scène de Paris Web en plein Lightning Talk en 2014.
Alors je vais raconter une histoire, c'était Stéphane au Kiwi Party et je lui dis je préférerais plutôt créer un casse-brique accessible. Il m'a donné le challenge de créer un casse-brique accessible et ça m'a retourné la tête. Donc j'y ai réfléchi, sachant que moi je fais tout le temps du WebGL qui est loin d'être accessible. Donc je me suis dit la première étape c'est d'utiliser SVG. SVG parce que ça scale super bien sur tous les devices et c'est surtout que c'est parfait avec Aria. Donc on va pouvoir le faire lire par des écrans. Ensuite l'étape d'après je me suis dit faut mettre du WebGL. Et là vous allez me dire accessible avec du WebGL. Je me suis dit ouais parce que souvent les jeux audio sont chiants parce que c'est que pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Moi j'aimerais bien que tout le monde puisse y jouer puisque c'est la promesse du web depuis 25 ans que c'est que tout le monde puisse y accéder. Donc ce serait vraiment dégueulasse qu'un jeu soit accessible uniquement aux aveugles. Autant faire des trucs graphiques avec WebGL. Et ensuite je me suis dit web audio on en a besoin. Alors on l'a pas encore dans IE mais il arrive. Donc je me suis dit commençons à jouer avec. Donc spatialisation, synthèse vocale et l'API est quand même uber cool. Donc je me suis fait plaisir et je me suis formé. Mon approche a été de faire une approche accessible first, donc j'ai d'abord pensé bien évidemment à concevoir le jeu de manière audio, et je me suis dit ensuite je vais l'améliorer de manière progressive pour les voyants qui eux vont être détanches juste avec l'audio, donc en rajouter des trucs dessus. Donc mon idée, je ne l'ai pas encore fait, je vais vous présenter un prototype que je n'ai pas terminé. Et j'ai arrêté de toucher au code parce que sinon j'allais tout casser. Donc l'idée, c'est mon designer m'a dit on pourrait imaginer ce casse-brique de cette manière-là, avec des forts contrastes, proposé par défaut. Et ensuite, si le voyant il trouve ça moche, il va activer WebGL, il va activer tous les effets et ça va être rigolo. Et il aura quand même l'audio. Et donc, fais péter man, montre-nous à quoi ça ressemble. Donc... Ouais, sur Windows, ça marche pas. Donc, on va commencer avec la balle par zéro. Alors, comme j'ai pas web audio dans IE, je me suis dit, quel est le meilleur navigateur qui supporte web audio et qui est accessible? C'est Firefox, bien évidemment. Donc, tu vois, l'autre, il se fout de ma gueule alors que je lui montre son produit, ça m'énerve. On va démarrer le jeu. Alors, le concept du jeu, c'est que le pad, j'ai une zone à 80% où si vous êtes aligné, la musique va jouer à la bonne vitesse. Et dès que vous allez sortir la balle de la zone du pad, la musique va se mettre à ralentir de plus en plus. Donc, c'est un indicateur auditif qui dit à la personne, du coup, là, t'es plus aligné. Et ensuite, je joue sur la stéréo. Si la balle est à gauche, j'allume que la gauche. La balle est à droite, j'allume que la droite. Et ensuite, la personne va pouvoir s'aligner. Ensuite, j'ai 8 colonnes. Chaque colonne correspond à une note de musique de piano pour l'aider, du plus grave au plus aigu, toujours spatialisé. Et au final, du coup, avec ça, grâce à la synthèse vocale, je peux dire à la personne le nombre de briques qui restent, et également un petit peu d'informations contextuelles. Donc, par exemple, il reste 2 briques à gauche ou 2 briques à droite, de ce genre-là. Donc, on en est là. Donc, je vais faire New Game. Pour l'instant, la balle ne va pas partir.
Started game.
C'est-à-dire que, vous voyez, ça ralentit, je ne suis pas aligné, ça se remet bien. Et là, c'est l'autre enceinte qui s'allume. OK. Maintenant, la technique... On active la vitesse de la balle, même si la balle bouge pas, c'est super chiant comme jeu quand même. Et donc là, la balle va partir. Donc là, je sais que je suis pas aligné, c'est à droite, je me déplace à droite, c'est aligné. Et là, vous écoutez, il me donne le nombre de briques qui restent. Et ensuite, si je suis un voyant, donc plutôt mauvais par rapport aux aveugles, on est réputé comme étant mauvais, et il va finir par dire tu es une tanche. Ce que veut dire game over en anglais. Merci.
Ouais.
La brique de l'écran vient de casser. La balle bouge encore.
C'est balèze.
On est à l'atelier TA, on est mi-septembre 2017. Et j'ai la chance d'être avec quelqu'un que je connais bien. À l'époque, c'était dans un autre lieu, puisque c'était au Tête à Lab. On est avec le collectif Faux Départ, donc salut.
Salut. Donc on est des bricolos, on était au Tête à Lab à ses débuts, et après on s'est installé à l'atelier Théa pour développer des installations interactives. Voilà, au sein d'un lieu qui est assez riche, avec pas mal d'interactions possibles avec des artistes. Donc voilà, on essaye de développer des installations autour de la technologie et des choses comme ça.
Tu as déjà travaillé, si je me souviens bien, sur les thématiques autour de jeux vidéo, soit en remixant des classiques, soit en créant justement des évolutions par rapport à ces classiques. Il y a eu un Pong 2D, si je me souviens bien. Il y a eu un vieux jeu de course qui était tiré des Summer Games, qui était absolument ignoble. Vous avez rendu ça réellement physique.
Oui, voilà, on a fait une petite série sur ce qu'on appelait les pseudo-tangibles rétro gaming. Donc l'idée, c'était de les changer d'échelle. On a fait Puzzle Bobble, on a fait un Pong où on joue avec des vraies raquettes. On a fait une autre version d'un Pong en une dimension, voilà, des choses comme ça, quoi.
Qui était assez tripant, c'était d'ailleurs étonnant de voir vraiment le minimalisme du jeu. Donc, dans quelques jours, a lieu un événement qui s'appelle Bricodrama, donc qui commencera à partir de fin septembre 2017 et qui sera présent jusque 2-3 semaines, si je me trompe.
C'est ça. C'est un événement autour de la sortie du magazine Multiprise, et autour de ça, il y aura une exposition autour de la bricologie qui va s'appeler Bricodrama. Donc, je vous encourage à venir voir.
Et vous êtes arrivé avec donc une expérience autour du casse-brique.
Ouais, voilà. Alors c'est plus une opportunité de technologique. On avait depuis un moment envie d'acheter un lidar, bon, c'est un capteur, on en parlera tout à l'heure, je pense, pour essayer de développer des choses avec des interactions sur des surfaces planes. Et donc l'idée de lancer des choses sur un mur, c'est venu de suite. Et du coup, la première chose qu'on pense quand on lance des choses sur un mur, c'est le casse-brique.
Alors donc, on a donc un ordi, ok. On a un vidéoprojecteur, un mur immense, couleur unie. Et donc il y a le lidar qui est un espèce de système de positionnement de distance par infrarouge, comme le radar, mais sans les ondes radio. Hein,
C'est ça, en fait, c'est un petit peu comme si on avait un télémètre laser dans la main, à part qu'il tournerait sur lui-même à 40 tours par seconde et qui serait ultra précis. Donc c'est utilisé. C'est le principal capteur qui est utilisé dans les voitures autonomes.
Et donc l'interface de jeu, ça, c'est un jeu que vous avez proposé qui joue à deux joueurs. Donc principe du casse-brique avec deux balles. Alors c'est un peu le volume d'une balle de handball, mais en mousse, ouf.
Ouais, voilà, ouais. Là l'idée, c'est qu'il fallait le lidar, c'est bien, mais c'est pas super rapide. Donc on a fait des calculs pour savoir quel impact. Est-ce qu'on pouvait jouer avec des balles de tennis? C'est pas possible. Et puis en plus, c'est trop dangereux.
Ouais, c'est un peu ça que je te reproche là-dessus. Ça veut dire qu'on peut pas hacker le jeu en attaquant directement le second joueur, quoi.
Non, voilà, ouais, là pour l'instant, on joue avec des balles en mousse. On s'est dit que c'était beaucoup plus raisonnable. Et donc, ça, c'est très bien capté par le lidar. Et ensuite, ça passe dans un premier logiciel qui nous sert de calibration, qui fait du blob tracking sur les impacts de cette balle contre le mur, donc qui moyenne l'ensemble des points qui sont le contour de la balle. Et ensuite, ça envoie ça par un protocole OSC à l'application du jeu lui-même.
Et donc, le jeu lui-même, c'est donc des briques carrées. L'écran est divisé en deux verticalement. Des briques carrées qui descendent à des vitesses différentes. Et donc, le but du jeu, c'est de
marquer 10 points, quoi. C'est d'arriver à marquer 10 points. On peut faire des combos en essayant de taper des carrés qui sont proches pour essayer d'en avoir plusieurs d'un coup. Et voilà, le premier arrivé à 10 a gagné.
Alors, dans le casse-brique, ce qui faisait vraiment le coup du casse-brique, c'était un, le côté agaçant quand c'était la dernière brique qui était juste à l'angle en haut à droite. Ah, celle-là, elle était dure.
Ouais, pick up.
Voilà. Et il y avait donc justement au fur et à mesure cette difficulté croissante par la patience, vous, vous avez remplacé ça différemment, vraiment par la compétition en fait.
Ouais, voilà. Là, l'idée c'est que c'est un jeu d'opposition, donc encore c'est, on pourrait corser le truc où lorsque le joueur de droite réussit à en attraper deux d'un coup, que ça aille sur le mur du voisin, on veut un petit peu peut-être mixer la difficulté de ce jeu-là avec un gameplay comme un peu comme Puzzle Bobble quoi.
Et je crois qu'on va se taper quelques balles.
On a oublié de dire que le jeu c'est Pixel Blaster. C'est Pixel Blaster. Voilà. Ouh. Comme ça on est à zéro tous les deux. Allez, c'est parti. Putain. Ah non. Ah. Hey, mais attends, je suis en train de faire du sport. Ah, le calibrage, il est pas toujours... Ah, bravo. Bravo, t'as l'entraînement, champion.
Ah, j'ai
Bon, c'était évident, je me suis pris une rouste.
Oui, ça c'est l'entraînement. Ça nécessite un petit peu de pratique.
Alors, juste une chose quand même. Là, on dit un petit bonus pour ceux qui l'écouteront. Le calibrage est meilleur en haut que vers le bas.
Ouais, alors là on est quand même dans un setup qui est pas génial. On a le vidéoprojecteur qui est posé sur une établi qui roule.
On se montre en l'ombre.
On a le lidar qui est pas tout à fait de niveau. C'est compliqué quoi.
En tout cas, donc le jeu s'appelle Pixel Blaster. Est-ce qu'il est open source ou faudra le copier en rétro-engineering?
Non, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va rendre open source. Parce qu'il faut tellement de matos pour le déployer que de toute façon ça va intéresser personne. Donc ouais, je pense que ça sera...
Donc ça sortira pas sur Kinect?
Non, ça sera sur GitHub, je pense.
Oui, donc avec le source. Juste une chose, peut-être d'autres projets?
Ouais, donc on essaye de... On va voir comment on peut développer ça. On voudrait peut-être faire un truc où on lancerait des pavés en mousse sur des murs et où on écrirait des messages. Donc voilà, on va essayer de développer ça au-delà du jeu, essayer d'amener un petit peu plus de poésie peut-être dans une autre forme de ce procédé-là, quoi.
En tout cas, jeu super immersif. On attend de voir. Vous aurez les photos, peut-être quelques vidéos sur le site cpu.pm. Merci en tout cas énormément à l'équipe de Bricodrama et merci énormément quand même à Faux Départ.
Merci à toi.
C'était CPU, le programme carré petit utile. Chief Wrecking Ball Officer d'Ascritch pour cette release. Cette release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme, des extraits et ses sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Cpu.pm, vous pouvez commenter et partager, c'est là exprès pour ça, profitez-en. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est presque midi, nous cédons la raquette pour l'heure impromptue.